France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Alors oui, on n'en a pas fini avec le Covid. Alors oui, on n'est pas encore au pic d'Omicron. Et oui, il y a encore trop de monde à l'hôpital. Mais oui aussi, on est à un tournant dans cette épidémie, précisément parce qu'Omicron est moins dangereux. C'est avéré, il a beaucoup circulé, il circule encore. Nous sommes bien vaccinés, donc majoritairement à l'abri des formes graves. Tout cela est avéré. Attention quand même, évidemment, à l'excès d'optimisme. Mais scientifiquement, voilà ce qui se dit en tout cas. Par ailleurs, commence à arriver sur le marché des traitements. Donc, phase 2, dans une situation qui nous permet peut-être, et c'est la question qu'on posera aujourd'hui, de changer de logiciel dans notre gestion du virus. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire, vouloir dire ? Est-ce que on peut d'ores et déjà, comme on commence à le lire chez nous, chez certains de nos voisins surtout, je pense aux Espagnols, est-ce qu'on peut changer de vocabulaire ? Donc troquer pandémie pour endémie, une maladie à caractère endémique se stabilise au sein de la population, ça veut dire qu'elle n'est pas devenue bénigne, mais on peut la surveiller. Pour preuve, pour vous qui nous écoutez, le sida est endémique par exemple, mais dans le cas du Covid, on pourrait voir s'atténuer de plus en plus le caractère pathogène, donc de moins en moins dangereux pour la plupart des gens, ce qui n'empêcherait pas jamais des retours réguliers de la maladie. Alors comment ça pourrait se gérer une phase 2 de ce type entre les vaccins, entre les traitements ? Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Dans une hypothèse qui reste optimiste mais qui est crédible ou plausible, en tout cas c'est ce que disait notamment l'OMS, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marie, la première, c'est vous. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, Marie.
Oui, alors évidemment, je me demandais ce que pouvait être ce début de deuxième phase de l'épidémie. Et en fait, si on fait le bilan de la première phase, du moins de la fin de la première phase, notre situation actuelle, on s'aperçoit qu'une très grande partie de la population est vaccinée, mais que les contaminations et le nombre d'hospitalisations augmentent. C'est-à-dire que la vaccination ne permet pas de réduire la tension dans les hôpitaux et aussi le nombre d'arrêts maladie. Alors, est-ce que pour préparer cette deuxième phase, il ne faut pas reconnaître qu'obliger la population non fragile à une dose de rappel est peut-être une erreur ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réserver donc cette troisième dose à la population fragile et attendre pour le reste de la population un vaccin qui couvrirait plus de variants et peut-être aussi des traitements ? Mais en tout cas, permettre qu'à nouveau la population adhère à la vaccination et que pour certains, il n'y ait pas cette impression qu'on écoule un peu des doses déjà produites.
Alors, 34 millions de doses de rappel d'ailleurs, hein, c'est un chiffre qui est sorti aujourd'hui, donc j'en profite pour le dire. Merci beaucoup Marie pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Karine Lacombe est avec nous. Bonsoir Madame Lacombe.
Bonsoir.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine et Benjamin Davido est là aussi. Bonsoir Monsieur Davido. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Avant de répondre à la question de Marie très concrètement, moi je voudrais savoir d'abord si on se dit que oui, pas peut-être maintenant, mais demain oui, on est dans cette phase 2 en fait de cette vague épidémique et inédite. Nous sommes passés en tout cas, il y a un avant et après Omicron. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus ou pas, Karine Lacombe d'abord?
On peut dire qu'on a envie d'y croire. Effectivement, on a quand même le sentiment que le visage de l'épidémie auquel on est confronté maintenant n'est pas du tout celui que l'on a connu en 2020 et même en 2021 avec le Delta. Alors pourquoi ? Et ça répond partiellement à la question de votre auditrice, parce que justement, on a été vacciné. Et quoi que en pense votre auditrice, qui peut se dire que peut-être finalement ça sert à rien de vacciner, c'est justement parce qu'on a eu des données qui nous sont venues d'étrangers, en particulier d'Israël et d'Angleterre, où on a vu que les personnes qui étaient vaccinées 3 doses faisaient des formes beaucoup moins graves que les personnes qui étaient vaccinées que 2 doses avec Omicron, et que cette constitution de cette immunité collective, en particulier grâce à la vaccination, permet justement de faire en sorte que le visage de l'épidémie ait changé. Donc non, c'était extrêmement important. Alors évidemment, ça ne présage pas du futur. Le futur, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, comme on commence à le dire, plutôt un virus qui est endémique, avec qui
donc
va avoir
dit
des bouffées épidémiques.
Donc
endémique, c'est-à-dire qui circule.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut prononcer ce mot-là. Vous, Karine Lacombe, vous prononcez ce mot-là.
Oui, mais enfin, en tout cas, on a envie d'y croire. On a envie de croire que, petit à petit, grâce à l'immunité collective, alors attention à ce terme, parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a atteint ce terme, tout est terminé. Pas du tout. Ça va vraiment être une immunité qui est fluctuante et grâce à la vaccination des personnes qui répondent à la vaccination, c'est-à-dire qui font des anticorps, eh bien, on va pouvoir empêcher une circulation très active, parce qu'on voit bien que le virus est vraiment maintenant dans la population, mais en tout cas, faire en sorte qu'il n'y ait pas de forme grave chez ceux qui ont une bonne immunité. Et puis, ces bouffées épidémiques vont plutôt être probablement un peu délétères pour ceux qui ne peuvent pas produire d'anticorps et qui seront les destinataires des rappels vaccinaux à venir et des traitements.
Benjamin Davido, est-ce que vous le prononcez, vous, le mot endémique, même si on est d'accord, c'est pas aujourd'hui, maintenant, mais est-ce qu'on se dit que oui, on tend vers ça? C'est ça la phase 2, en fait. On est en train de passer vers le virus endémique.
Je ne sais pas si c'est un numéro, mais en fait, endémique, ça veut juste dire qu'on vit avec la maladie. Il y a d'autres maladies qui sont endémiques, vous l'avez rappelé. Il peut y avoir une endémie, et en même temps, c'est une pandémie, parce que ça veut dire que ça touche le monde entier. Non, je pense, comme ça a été très bien dit, en réalité, l'autre maladie qu'on connaît qui est endémique et avec laquelle on vit, c'est la grippe, pour laquelle on vaccine chaque année des personnes les plus vulnérables, pour laquelle il y a une espèce de pseudo-immunité collective au sein d'une population qui va faire des formes atténuées, des formes moins sévères. Et puis, on a quelque chose d'inédit en réalité, c'est que comparativement à la grippe où ça a pris des décennies, voire des siècles, pour s'installer, typiquement H1N1, c'est la grippe espagnole, ça remonte pas aujourd'hui. Chaque année, on revaccine les populations contre H1N1, les gens le savent pas bien, les vaccins sont multivalents, et bien on fera probablement la même chose avec des vaccins contre le coronavirus, avec Omicron, avec peut-être d'autres variants au fur et à mesure.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on se dira, parce qu'effectivement, notamment Omicron et partout, on plaisantait tout à l'heure hors antenne avec Benjamin Davido sur le fait que de toute façon, moi je disais, officiellement, j'ai l'impression de ne pas encore l'avoir eu, Benjamin Davido disait moi deux fois, donc c'est pour que vous l'avez eu une fois pour moi, donc vraisemblablement, donc à un moment ou un autre, de toute façon, cet Omicron, il est là. Donc à quel moment on se dit que puisqu'on en est là, c'est plus la peine de tester, c'est plus la peine d'isoler, c'est plus la peine de jouer avec ces gestes-là, parce que ça, pour le coup, ça sert plus à rien, on peut vivre avec sans tout ça. À quel moment ça arrive, ça?
Je crois justement qu'à partir du moment où on considère qu'on est dans une phase endémique, tester et isoler, enfin tester les personnes qui ne sont pas porteurs de fragilité, pathologie particulière, et isoler de façon globale la population, ça servira plus à rien. Je pense que ça va venir dans les mois qui sont devant nous. Ça ne sera pas dans les années, c'est vraiment dans les mois qui sont
devant nous. Les mois sont souvent devant nous, vous me direz, mais lesquels? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit que... alors, on ne va évidemment pas donner de date, hein, je ne vais pas vous faire ce coup-là, mais est-ce qu'on se dit, bon, traversons le mois de mars, et à ce moment-là, on pourra réfléchir? Est-ce qu'on dit, traversons la saison jusqu'avant l'été? Qu'est-ce que vous imaginez, vous,
Karine Lacombe? Je pense que c'est peut-être un peu tôt encore pour donner des délais. On voit bien qu'on pensait être arrivé au pic des contaminations Omicron cette semaine, et en fait on est encore en train d'augmenter, même si quand même les hospitalisations se sont stabilisées, idem en réanimation. Donc est-ce que c'est un premier signal que on continue d'avoir de la transmission, mais la sévérité de la maladie, et en tout cas toutes les personnes qui pouvaient faire des formes graves, finalement maintenant sont protégées, on peut se poser la question. Donc c'est dur de donner un délai, mais on espère vraiment être sur le bon chemin.
Est-ce qu'on explique d'ailleurs, Benjamin Davido, pourquoi on n'est pas au pic Omicron? Parce qu'on a cru qu'on l'était, et puis on se rend compte qu'on ne l'est pas. Est-ce que ça a à voir avec le variant du variant, le sous-variant qu'on a découvert maintenant, dont il est possible qu'il soit déjà là? Les Danois en ont beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est l'une des raisons? Comment se fait-il qu'on n'est pas au pic Omicron?
Vous savez, souvent avec le Covid, c'est pas une seule raison, c'est plusieurs raisons. D'abord, il faut rappeler qu'en Île-de-France, a priori, le pic, lui, en revanche, des contaminations, il est passé. Et puis quand on parle de pic, on ne sait jamais si on parle du pic de contamination en ville ou du pic hospitalier. Le pic hospitalier, pour l'instant, il n'existe pas. Il faut se féliciter des hospitalisations, comme ça a été dit. Pour l'instant, elles sont lissées, elles sont acceptables et surtout, il y a un frein en réanimation. Alors, il y a probablement en effet plusieurs explications. D'abord, il y a eu aussi un effet avec plusieurs variants qui ont coexisté. Cette vague, elle est particulière, on l'oublie, mais on vient seulement maintenant d'écraser Delta.
Et donc, il y a une superposition, effectivement.
Absolument, même si pour l'instant, le fameux variant BA2, il est minoritaire en France. On est aussi tributaire du fait qu'on séquence peu et on a du mal à savoir. Et en réalité, on est sur une période d'hiver qui est propice aux contaminations. Et donc, il y a peut-être un petit décalage. Et souvenez-vous, ce décalage, je disais qu'en France, c'était pas partout pareil. On l'a vécu en réalité à chaque vague avec un virus qui se déplaçait d'est en grande ouest. Et donc, c'est peut-être ça qui explique que dans les jours à venir, à un moment donné, on atteindra ce pic sur l'ensemble du territoire.
Alors, le variant BA2, comme vous dites, c'est le variant du variant, c'est le sous-variant, en fait, d'Omicron. Et effectivement, vous le soulignez, très important au Danemark, mais les Danois sont très séquenceurs, en fait, par rapport à nous. C'est peut-être ça qui fait cette différence-là. Georges nous dit ceci sur franceinter.fr, au niveau des médicaments qui devraient sortir, quel type de médicaments sont-ils et faut-il compter sur ces médicaments?
C'est sûr que l'arsenal thérapeutique s'est beaucoup enrichi ces deux dernières années. La recherche clinique a été extrêmement active. Donc, si on regarde vraiment les médicaments, alors on peut dire que là où ça bouge le plus, c'est les médicaments antiviraux. Vous savez, ces médicaments qui sont plutôt destinés à la première phase de l'infection et non pas quand on est déjà à l'hôpital avec de l'oxygène. Mmh. On utilise plutôt des anti-inflammatoires et où il n'y a pas eu de grande révolution thérapeutique. Dans les médicaments antiviraux, il y a les anticorps monoclonaux. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont plus efficaces sur le variant Omicron, mais certains le restent et on continue de les utiliser surtout en prévention ou en traitement très précoce, c'est-à-dire moins de 5 jours sans oxygène, ce qui semblerait qu'à partir du moment où on a besoin d'oxygène, ça marche moins bien, voire pas du tout. Et puis on a un médicament par voie orale qui arrive en pharmacie.
Alors le Paxlovid,
exactement,
c'est celui de Pfizer.
On va voir ce
qu'est-ce
que ça
qu'on
donne.
Dit du Paxlovid en fait. Est-ce que là aussi, parce qu'on essaye d'imaginer ce que peut être une phase 2 désormais, est-ce que ça, qu'est-ce qui rentre dans l'arsenal que nous n'avions pas jusque-là, donc une dose de vaccin potentiellement, est-ce que le Paxlovid rentre dans cet arsenal?
Oui, certainement, c'est le premier médicament qu'on va avoir accessible en ville, en plus par voie orale, donc plus facile d'utilisation que tous les médicaments qu'on peut vous donner par voie parentérale, c'est-à-dire intramusculaire ou intraveineux. Le problème, c'est déjà de voir vraiment les données, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, elles n'ont pas été publiées dans des revues à comité de lecture, donc c'est-à-dire à destination de tous les chercheurs et de tous les médecins. Bon, évidemment, il faut faire confiance à nos autorités de santé qui ont donné leur aval pour que ce médicament soit utilisé. Et puis ensuite, il va falloir voir comment la médecine de ville, parce que c'est plutôt en ville, la médecine de ville va se l'approprier, sachant que c'est 5 jours de traitement, puis il y a des effets secondaires. Enfin, il y a des effets secondaires, non. Il y a plutôt des interactions médicamenteuses.
Benjamin Davido, là-dessus, est-ce que vous placez, quel genre d'espoir vous placez dans le Paxlovid qui permettra lui aussi d'être l'un des outils d'une phase 2 dans laquelle évidemment on finira par arriver?
D'abord, je crois qu'il ne faut pas opposer les médicaments aux vaccins, parce que souvent on fait cette erreur, ça y est, les médicaments arrivent, donc l'épidémie est terminée. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, sans être monomaniaque, je vous donne un exemple très simple pour les auditeurs qui nous écoutent. La grippe, chaque année, on vaccine des gens. On fait quand même malheureusement des formes graves malgré la vaccination. Mmh. On a un vaccin qui a une durée de vie limitée. Mmh. Le vaccin de la grippe, les gens ne le savent pas, il dure que 6 mois.
Oui, oui. Et qui en général est à 60% efficace.
40 à 60%, voilà, ça dépend des individus.
Ouais, c'est bien
encore moins efficace chez les sujets âgés, ce qui n'est pas forcément le cas des vaccins ARN messagers. Mais sans faire la promotion d'un médicament, le vaccin est un médicament, les médicaments sont des médicaments. On enfonce des portes ouvertes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pareil, pour la grippe, il y a des antiviraux et ça ne règle pas tout. Et comme ça a très bien été expliqué, ces médicaments, il faut les donner très tôt. La problématique d'abord de
cette... C'est ça que ça veut dire.
Idéalement, dans les 3 premiers jours. La problématique de la maladie, vous le savez, aujourd'hui, on dénombre 350 000, 450 000 cas. On estime qu'il y en a probablement 1 million. Il y a la moitié des formes qui sont asymptomatiques. Donc déjà, tous ces gens-là sont exclus. Ensuite, ces médicaments, on va les réserver aux gens qui font un risque de faire une forme sévère et d'arriver à l'hôpital. Donc en fait, on est sur un goulot d'étranglement avec des contre-indications qui ont été rappelées. On sait que dans les malades qui ont des insuffisances rénales sévères ou des insuffisances hépatiques terminales, on ne peut pas les donner. Donc en réalité, il n'y a pas de pilule magique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que tous ces médicaments, ça va nous aider, nous spécialiser dans des indications particulières dans des situations. Israël, d'ailleurs, l'utilise, mais l'utilise avec parcimonie. D'abord parce que s'il y a un risque de résistance et parce qu'on a peu de données en réalité sur l'efficacité face à Omicron. Ça a surtout été essayé avec les autres variants et un petit peu Delta. Et donc, sans dire que tout est noir, mais je pense qu'il ne faut pas résumer que les phases sont liées aux médicaments. En fait, tous ces éléments-là font qu'on avance et que la maladie avance et nous, on avance avec elle.
Vous dites tous ces médicaments, Benjamin Davido, ça veut dire qu'on en attend d'autres et beaucoup ou pas? Est-ce que tout le monde est à fond en train de chercher ces médicaments au moment où on se parle?
D'abord, il y a eu d'autres médicaments, vous ne l'avez pas rappelé, mais il y a eu un autre médicament que l'HAS n'avait pas autorisé en France et qui existe dans d'autres pays, notamment en Angleterre, et que, évidemment, tout le monde essaie de travailler sur ces médicaments qui vont nous aider dans le quotidien, comme on soigne d'autres maladies en maladies infectieuses. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas opposer l'idée qu'on a fait un bond spectaculaire dans les progrès de ces médicaments avec des anticorps, des anti-inflammatoires liés à la maladie. Mais le but du jeu, ce n'est pas de tomber malade et de faire une forme grave, d'arriver à l'hôpital pour être soigné par des médicaments. Et donc je crois qu'il faut remettre l'église au milieu du village. C'est que ce vaccin nous permet pour une population des plus fragiles, et peut-être on en parlera tout à l'heure avec l'arrivée, j'espère, d'un vaccin 2.0 mis à jour Omicron, qui nous est promis au printemps,
absolument,
de pouvoir en réalité se reposer la question de la nécessité de dépister l'ensemble de la population et de vacciner l'ensemble de la population. Et ensuite, j'espère, on pourra redonner le pouvoir aux médecins, parce qu'aujourd'hui, on a de fait 60 millions de gens qui se testent, qui font des diagnostics, et aussi beaucoup d'automédication. Et ça, c'est aussi un problème en médecine.
Pierre-Éric est avec nous. Bonsoir, Pierre-Éric.
Bonsoir.
On vous écoute.
Tout à fait. Alors, j'avais une petite question et surtout une réaction sur cette, on va dire, sortie de crise, phase numéro 2, on va dire, de la pandémie, ou plutôt endémie, comme vous venez de le dire. Je me pose aussi des questions de bon sens, notamment le fait qu'aujourd'hui, on est essentiellement sur du tout vaccinal, avec le vaccin qui s'impose effectivement à une grande partie de la population, notamment avant avec le pass sanitaire, aujourd'hui avec le pass vaccinal. Prends mon cas personnellement, où j'ai eu le Covid il y a 2 ans. Ensuite, j'ai fait ma première dose de vaccin, donc schéma vaccinal, une dose. Aujourd'hui, donc forme vraiment bénigne, hein, je ne fais pas partie des personnes à risque, on va dire. Là, effectivement, la nouvelle politique mise en place fait que on va devoir faire un rappel d'une troisième dose, sans prendre en considération, et c'est là où je me posais question de bon sens, c'est de dire... Chaque personne réagit de manière, on va dire, particulière au vaccin, produit des anticorps, des fois elle en produit, des fois elle n'en produit pas assez. Mais lorsque, pour moi, une personne produit assez d'anticorps, et c'est là où je pense que les tests sérologiques seraient intéressants, il n'y aurait pas, on va dire, nécessité de refaire une troisième dose de manière aveugle, dans le sens où je pense que si de bon sens on se disait faisons un test sérologique au bout de 3 mois, par exemple, mon niveau d'anticorps est-il encore acceptable au vu d'une protection nécessaire face à la maladie? Ben, si ce n'est pas le cas, ben, dans ce cas-là, effectivement, refaire une dose de rappel. Si c'est le cas, ben, effectivement, garder les vaccins pour les personnes qui en ont le plus besoin. Encore plus, j'ai envie de dire, cette obligation, entre guillemets, dissimulée, vaccinale pour accéder, on va dire, aux activités de la vie quotidienne, je pense qu'il y a un bon nombre de personnes aujourd'hui qui est dans ce cas où, effectivement, font pas partie des profils à risque, ils ont peut-être un taux d'anticorps qui est encore acceptable et on va obliger ces personnes à faire une troisième dose qui n'est pas forcément nécessaire.
Merci beaucoup Pierre-Éric pour cette question. L'histoire de la sérologie, elle revient à chaque téléphone sonne et on en des dizaines. Est-ce qu'on peut re-répondre à Pierre-Éric, parce que visiblement c'est peu clair pour la plupart des gens. Donc c'est très simple, oui ou non, une sérologie et des anticorps de partout peuvent être considérés comme suffisants sans vaccin?
Alors,
sans
non.
Troisième dose.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, une sérologie, ça va vous donner un taux d'anticorps totaux. Dans ces anticorps totaux, vous avez des anticorps neutralisants et des non-neutralisants, c'est-à-dire des anticorps qui vont empêcher le virus, hein, qui vont tuer le virus, si on schématise, et puis d'autres anticorps qui n'ont pas cette activité-là. Et pour l'instant, on n'a pas mis en évidence de corrélation entre la prévention d'une forme grave et le taux d'anticorps. Alors évidemment, on aimerait bien, hein, ce serait vraiment un graal. Le problème, c'est que la fabrication des anticorps dépend complètement d'une personne et le taux de chacun, en fait, de votre patrimoine génétique, quelque part, et le taux d'anticorps neutralisant en particulier, qu'on ne mesure pas en routine, qui demande, voilà, qui se fait en laboratoire de recherche, etc. Lui aussi dépend de chacun et des caractéristiques de chacun.
Donc en fait, quand on pète le feu en anticorps, ça ne veut pas dire grand-chose.
Exactement.
Grand chose,
en fait. C'est pas la panacée. Non, on ne peut pas guider la vaccination sur les anticorps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2 ans, on a quand même fait des progrès majeurs grâce à la vaccination. C'est probablement pas une vaccination qui va rester obligatoire dans le temps où tous les ans tout le monde va se refaire vacciner. Donc, je pense, probablement sans trop me tromper, j'espère que bientôt, une fois qu'on aura, que toute la population sera imprégnée, a eu un contact avec le virus ou la vaccination, qu'à un moment donné, on focalisera la vaccination sur les personnes à risque de faire des formes graves, immunodéprimées, puis peut-être qu'elle sera combinée à la grippe et qu'on le fera une fois par an, et que sa composition s'adaptera aux variants qui circulent.
Regardez, en parlant de ça justement, Benjamin Davidon sur franceinter.fr, on a Sandrine qui dit 40% de plus de cas dans mon école pour les élèves de 3 à 11 ans en un mois, 50 sur 124, à quoi ça sert de garder le masque toute la journée, de ne pas vraiment faire d'EPS, d'auto-tester les enfants? Le virus, de toute façon, se diffuse dans toutes les familles, quoi qu'on fasse. Donc, autant tout laisser ouvert, dit-elle. Et au moment où je lis son message, arrive le chiffre des contaminations confirmées en 24 heures en France, 500 à 1635. On est les rois de l'Europe là-dessus avec nos 500 635. Qu'est-ce qu'on répond à Sandrine qui, de bon sens, dit tout le monde est masqué, tout le monde fait hyper attention et résultat des courses, ce genre de contamination. Donc ouvrons les écoutilles.
La réalité, c'est qu'en fait, malheureusement, quoi qu'on fasse face à un tel nombre de contaminations, on a un mur, on n'arrive plus à infléchir la courbe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye, si je puis dire, de limiter la casse, de freiner la transmission tant bien qu'on peut. Et puis aussi, ça rassure aussi certaines personnes. Il y a des gens qui ont des fragilités et il y a aussi, également même des enfants qui ont des comorbidités. Et en réalité, ça veut dire qu'il faut repenser, comme on le disait dans cette phase 2, pour comme vous l'avez appelé, notre politique de test. Et je pense très clairement qu'un des sujets qui va se poser, la première, c'est qu'est-ce qu'on fait des asymptomatiques. Moi, je pense qu'il ne faut plus tester les asymptomatiques. Il faut aller
On ne teste plus les cas contacts, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Absolument, vous avez
en fait
tout compris. Il faut aller aussi vers une politique où on change la stratégie vis-à-vis des enfants. J'ai entendu dire qu'il fallait on changeait pas une équipe qui gagne, mais je ne sais pas si on a une équipe qui gagne par rapport à la stratégie à l'école. Et ensuite, je pense qu'il sera temps déjà, si on allège ce fardeau des tests des asymptomatiques et des cas contacts, de se repositionner sur les symptomatiques et de dire qu'on teste uniquement ceux qui ont un risque de faire une forme sévère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, faire le diagnostic, pour nous, médecins, peut nous étayer en disant telle personne, comme on l'a dit, peut être éligible à un traitement, peut être éligible à une surveillance particulière. Et que c'est pas pareil. On l'oublie, mais il y a aussi la grippe qui circule, il y a d'autres virus. D'avoir un diagnostic chez ces gens-là qui peut permettre une meilleure surveillance étroite qu'en population générale chez quelqu'un où avoir en effet un Omicron ou avoir un autre coronavirus ou un rhinovirus, un métapneumovirus, sera probablement la même chose sur un sens pratique et clinique.
Est-ce que dans cette nouvelle phase, ou même la suivante, est-ce qu'on regarde déjà, ou est-ce qu'on va regarder, pourquoi on est au fond si inégaux devant ce virus? Je disais, on en parlait tout à l'heure hors antenne, entre ceux qui ne l'ont jamais eu, ceux qui l'ont eu deux fois parfois, en faisant tout aussi attention les uns que les autres. Est-ce qu'on a déjà des pistes pour savoir pourquoi certains sont plus sujets que d'autres, et est-ce que ça peut nous aider à réfléchir aussi pour les phases suivantes? Karine Lacombe.
Alors, oui, on a quand même mis en évidence beaucoup de facteurs qui sont pour certains des facteurs génétiques. Par exemple, on sait que quand on a des mutations sur le gène de l'interféron, qui est une des protéines de l'inflammation absolument essentielle dans la lutte contre les agents infectieux, eh bien, on est plus à risque de faire des formes graves. Donc ça représente une partie non négligeable de la population. Probablement que certains d'entre nous ont également des mutations sur ce fameux récepteur ACE2 sur lequel se fixe le virus, et puis qui fait que le virus ne peut pas se fixer. Donc évidemment, on ne s'infecte pas. Et puis, il y a aussi des prédispositions comme tout ce qui concerne le dysmétabolisme, c'est-à-dire le fait d'y avoir du diabète, de l'hypertension artérielle, du surpoids, qui prédispose à faire des formes inflammatoires graves.
Mais est-ce qu'on oublie tout ce qu'on a pu lire sur les groupes O positifs, les groupes universels, les groupes sanguins universels? Est-ce que tout ça, c'est du... Ça repose sur pas grand-chose, ou est-ce que ça a du sens?
Peut-être qu'il y a des facteurs qui marchent, qui conditionnent un peu à la marge, mais pas de façon globale. C'est pas des facteurs qui prédominent.
Benjamin Davido là-dessus?
Non, je pense qu'à l'inverse, cette question-là, l'intérêt, c'est de dire on va identifier des gens qui ne feront jamais la maladie. En réalité, ça va être un nombre, à mon avis, très limité de personnes, s'il faut lui donner un chiffre entre 5 et 10%. Et c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, le problème...
Il faut identifier ceux qui la font de façon dangereuse, évidemment.
Absolument. Et à l'extrême, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un des espoirs qu'on a avec Omicron et ses différents variants, on parlait de BA2, mais il y a même un BA3. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde va le rencontrer. Ceux qui sont invulnérables au virus, ils émergent pas. De toute façon, c'est pas le problème. Est-ce qu'on aura cette immunité de groupe, de troupeau, et qu'à un moment donné, ensuite, le virus va pouvoir circuler de façon répétée, comme le font d'autres virus, et est-ce qu'il va s'installer une saisonnalité? Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ensuite, nous, on fera notre travail de médecin, qui est de protéger les gens qui ont des facteurs de risque, qui sont les plus à risque. Et c'est pareil pour beaucoup de choses et beaucoup d'autres maladies.
Mmh. Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Emmanuel, soyez le bienvenu.
Merci. Alors moi j'entends depuis beaucoup de temps, depuis 2 ans, j'entends beaucoup les mots « on croit, il faut croire, on espère », j'ai bien entendu « on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle », c'est grandiose. Et je trouve que quand même jusque-là en France, le bilan est quand même vraiment pas glorieux. Je vais surtout pas rentrer dans les questions politiciennes, mais le bilan est quand même pas glorieux. On est à plus de 120 000 morts officiels, probablement 150 000, on en a encore eu 400 hier, 393. On a un taux de contamination qui est, au-delà de l'entendement. Vous avez cité encore les chiffres. On est les premiers en Europe, parmi les plus élevés au monde, etc. Et on continue de croire, en fait. On continue d'espérer que le virus nous donne une bonne nouvelle, nous sorte un variant un peu moins dangereux, qu'on s'en sorte comme ça. Ce matin, je lisais encore un article super intéressant de deux chercheurs de Montpellier, Samuel Alizon et Mircea Sochonea, Le titre de l'article, c'est « Pourquoi il y a peu de chances pour que le SARS-CoV-2 perde sa virulence ?» Et l'article est super intéressant. Il dit bien qu'il ne faut pas confondre létalité et virulence. Pourquoi est-ce qu'on peut pas forcément tout de suite s'enthousiasmer sur le fait que « Oui, non, ça y est, c'est bon, Omicron va être plus gentil, va être un peu moins, etc. » Omicron est peut-être un peu moins virulent que Delta, mais bon, Delta étant beaucoup plus virulent que les précédents, on n'est peut-être pas revenu à la virulence de la souche initiale de Wuhan. Donc on est toujours dans cette idée-là que ça va bien aller, etc. Et du coup, en fait, on gère pas grand-chose. Là, la preuve, c'est qu'en ce moment, c'est contamination ouverte. Ma question, c'est la phase 2, est-ce que ce serait pas de vivre avec, mais certainement pas cette espèce de résignation, d'une sorte de vivre avec en disant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, voilà, le truc est sur nous, on le laisse nous ravager, bon. Non, un vivre avec où on adopte des moyens de lutter. Ça me rend triste quand j'entends dire, non, ça y est, c'est fini, on peut plus rien faire.
Mais je trouve que c'est pas forcément, j'entends la même chose que vous, parfois, Emmanuel, mais je l'entends pas comme une fatalité, je l'entends comme la contamination est plus forte, mais le nombre de cas graves étant moins important, s'en alarmer plus que ça.
Mais la contamination est plus forte, mais est-ce qu'on a vraiment, c'est les mots anglais qui me viennent, mais est-ce qu'on a vraiment essayé de monter en charge sur cette contamination? Est-ce qu'on a vraiment essayé de freiner les contaminations? C'est-à-dire qu'il y a plus d'un siècle, au moment des épidémies de choléra, on a appris à traiter l'eau. On a appris à boire de l'eau sans pathogène. On a appris à boire de l'eau propre. Est-ce qu'on apprend en ce moment à respirer de l'air propre? Est-ce qu'on apprend vraiment ça? Je veux dire vraiment, c'est-à-dire, est-ce qu'on met des moyens, pas quelques millions, des dizaines, des centaines de millions pour équiper les espaces clos, alors les écoles évidemment, mais pas seulement les écoles, mais je veux dire, avec un monitoring de la qualité de l'air, avec des monitorings CO2, avec des vrais systèmes de ventilation, avec des vrais systèmes de filtration quand la ventilation n'est pas possible. Il y a en ce moment, là, j'ai vu un article du Monde qui disait, une tribune du Monde qui disait, oui, attention, les FFP2, ça peut être, ça peut donner un faux sentiment de sécurité, mais qui peut encore aujourd'hui dire ça? Je veux dire, moi, j'ai acheté mes premiers FFP2 en février 2020. Et je suis ni chercheur, ni rien. J'ai lu simplement. En une heure, je fais la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP2. Je suis retombé sur le site de l'INRS. Je pense pas que ce soit des dangereux fous furieux. L'INRS qui fait la différence. Voilà, un masque chirurgical ne filtre pas. Un masque FFP 1, 2 ou 3 filtre.
Ouais, je vous entends. Alors moi, je suis quand même un petit peu étonné sur on ne fait rien réellement pour lutter contre le virus. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en peut plus de lutter contre ce virus et que surtout les contaminations dont vous parlez sont assez équivalentes dans nos pays limitrophes. Je pense au Danemark par exemple, je pense à la Grande-Bretagne aussi. Alors parfois effectivement c'est beaucoup moins important. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal par exemple. Est-ce que là-dessus, Karine Lacombe, on peut se dire que oui, il y a de bonnes et de mauvaises méthodes. Il y a en tout cas un déséquilibre entre certains pays d'Europe qui font nous interroger, nous, sur la raison pour laquelle on est si haut par rapport à d'autres.
Oui, alors, je pense que ce qu'exprime cet auditeur, c'est aussi la lassitude qui s'est installée chez chacun depuis deux ans, lassitude psychique en particulier, et parfois le sentiment qu'on n'en fait pas assez. Il faut quand même se remettre dans la temporalité de l'acquisition des connaissances depuis deux ans. Et tous les jours, on apprend et tous les jours, on réadapte notre façon de faire en fonction de l'évolution des connaissances. Tout ce que dit monsieur, évidemment, c'est vrai, il a raison. Il y a des tas de gestes barrières, de méthodes qui ont été mises en évidence pour mieux contrôler l'épidémie, mais l'utilisation de certains de ces gestes barrières est aussi une appropriation individuelle de ce qui est mis à notre disposition. C'est difficile de dire, oui, il aurait fallu que tout le monde fasse ci, qu'on aurait dû faire ça comme ça. Dans le temps, c'est des choses qui sont difficilement applicables et intégrables par chacun. Je ne crois pas effectivement, quand on regarde comment ça se passe autour de nous, qu'il y ait vraiment des différences fondamentales en termes de mortalité.
On est très haut, c'est une réalité, pour le coup.
En termes d'infection, on est très haut, c'est vrai. Alors pourquoi nous on est très haut et pourquoi le voisin ne l'est pas? À chaque fois on regarde tout le temps à l'instant T. Mmh. On ne regarde pas ce qui s'est passé avant et puis on ne regarde pas ce qui va peut-être se passer après. Donc je pense qu'il faut prendre une vision plus globale.
Quel est le nombre de tests que chacun réalise en fait, parce qu'on se targue d'être des champions testeurs. C'était une bonne idée précédemment, en effet, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'être les champions testeurs? Au fond, ça rejoint ce que vous disiez, Benjamin Damido. Est-ce qu'il faut qu'on continue à être les champions testeurs?
Juste pour rebondir sur ce qui est en train d'être dit, en fait, typiquement, il y a l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a vécu une cinquième puis une sixième vague complètement décalée de la nôtre. Et donc, en fait, on n'est pas du tout dans la même temporalité puisque eux ont pratiqué à la mi-décembre, sans me tromper, au début décembre, déjà une espèce de pseudo-confinement et avec des variants et des circulations d'agents qui sont pas les mêmes. Donc, on peut pas comparer un pays à un autre au même moment. Et c'est vrai que, je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire, je pense qu'on aurait besoin au moins d'une politique européenne de santé globale et qu'on applique tous les mêmes règles et ça serait une bonne chose.
Parce que lorsqu'on rentrera dans ce qu'on appelle la phase 2 ce soir, donc dans quelque chose qui sera effectivement un peu, j'allais dire un peu plus détendu, j'ose pas employer ce genre de terme, mais enfin en tout cas quand on aura admis ou quasiment qu'on est dans une phase endémique, si on le fait pas ensemble, si on n'avance pas ensemble, est-ce qu'on risque pas de replonger un moment ou un autre, entre voisins européens, moins sur le continent?
Déjà je vais vous donner un exemple, si demain vous faites la maladie Omicron et que vous êtes en Espagne, vous n'avez pas de QR code. Et donc vous revenez en France, vous êtes parti en Espagne, et bien vous allez être vacciné si votre passe périme. Donc déjà il y a un problème pour une maladie qui est la même d'un côté à l'autre de la frontière. Donc on a en effet ce problème là, et ensuite on l'a vu, sans agiter le chiffon rouge des variants, on a besoin également, pour rebondir sur tout à l'heure l'épargne de la vaccination, de pouvoir vacciner des pays qui en ont besoin pour protéger également et faire en sorte qu'on se retrouve pas à un moment donné avec des pays à la traîne sur lesquels on aura des endroits avec plus ou moins un risque, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se creuser aujourd'hui, c'est des pays où il fait meilleur vivre que d'autres, et des stratégies et des politiques face au Covid qui ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'en effet, il va falloir repenser notre stratégie de test, parce qu'on a du mal aujourd'hui à voir, on n'a jamais vécu ça, tester des millions de Français tous les jours de maladies, on ne l'a jamais fait, même il y a 3 ans pour la grippe. Et donc on ne sait pas combien on aurait de gens qui seraient asymptomatiques de la grippe, combien on aurait de gens qui seraient plus ou moins symptomatiques à un instant T, combien ça représenterait d'individus.
Écoutez, cette remarque d'un auditeur sur France Inter qui dit « Je me permets d'intervenir lors de votre émission de ce soir. Vacciné 3 fois, j'ai contracté le Covid il y a 15 jours. Je récupère très mal, sans aucune prédisposition. J'ai vraiment le sentiment qu'on minimise les effets à moyen et long terme de ce variant, car tout le monde est excédé et n'en peut plus. J'ai de véritables doutes sur le fait de laisser courir ce variant qui me fait douter pour la suite. Et qu'en est-il, dit-il, des Covid longs? Pourquoi en parle-t-on si peu? Est-ce qu'on peut faire un Covid long avec un Omicron? Est-ce qu'on sait ça ou pas ?»
Vous savez, la définition du Covid long, c'est des symptômes plus de 12 semaines. Là, on n'a pas encore 12 semaines de recul sur la présence d'Omicron. Mais probablement qu'on va pouvoir faire effectivement un Covid long avec un Omicron. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas avec ce variant alors que ça s'est passé avec d'autres.
Et 3 doses.
Donc on verra. Oui, et 3 doses. Alors effectivement, même si on sait que 3 doses... Même si on sait que 3 doses vraiment protègent des hospitalisations et des formes graves, on sait que ça ne protège pas de l'infection parce que c'est un virus qui est extrêmement contagieux. La vaccination a diminué de façon certaine la transmission avec le variant Alpha, donc ce fameux variant anglais de l'année dernière, et le variant Delta.
Ça paraît tellement loin.
Ça diminue aussi. Effectivement, on a l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Ce qui montre quand même la temporalité de la Covid. Et ça diminue, quoi qu'on en dise, et même si on a le sentiment que non, ça diminue également la transmission du variant Omicron. Il y a maintenant des données qui sont sorties il y a 10 jours et qui montrent que le taux de transmission est plus faible quand on est vacciné que quand on n'est pas vacciné contre l'Omicron. Alors évidemment, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, donc malgré tout, la contagion perdure.
Et parfois, effectivement, de manière un peu plus sévère, c'est moins qu'on puisse dire pour notre ami auditeur. Jean est avec nous. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je cherche un chiffre depuis déjà plusieurs jours, voire même semaines. C'est celui de la proportion de gens en réanimation qui sont contaminés par le variant Omicron par rapport aux autres variants. Pour se faire une idée concrète sur des chiffres et non pas sur des impressions ou sur des avis de ce qui est réellement la dangerosité de ce variant.
Une vraie bonne question. Y a-t-il des Omicron en réa? Et si oui, à quelle proportion, Karine Lacombe ou Benjamin Davido, ils sont en train de se faire des politesses?
Oui, non, c'est que c'est que, écoutez, je n'ai pas de données récentes. J'avais des données au début du mois de janvier qui étaient sur les réanimations parisiennes, hein, je parle, d'environ 20%, mais ça c'était au début du mois de janvier. On est vraiment à toute fin janvier, donc le pourcentage a augmenté, mais je ne peux pas vous donner de chiffres précis.
Benjamin Damido, est-ce qu'on fait ça?
Oui, surtout qu'en réalité, il y a un moment donné, il y a eu un chevauchement parce qu'on s'est retrouvé, il y avait tellement de tests qu'on n'a pas pu avoir tous les fameux séquençages de tous les patients. Les derniers patients, nous, qu'on a poussés en réanimation étaient essentiellement des patients Delta, justement, parce qu'il en restait. Et très clairement, je crois qu'en réalité, comme on l'a expliqué...
Donc on ne sait pas, en fait. Hein.
Pardon ?
Donc la réponse, c'est qu'on ne sait pas vraiment,
non,
en fait,
nous,
combien il y a d'Omicron en réa.
Non, là, l'instant T, on ne peut pas vous donner de chiffres. Mais les chiffres existent parce qu'il y a une base de données parisienne qui s'appelle Reality, où on a ces données-là.
Pardon, mais c'est un peu la question qui fâche à chaque fois, en fait. Il va y avoir aussi un moment où, exactement comme on le fait pour la grippe, il y a un nombre de morts incompressible tous les ans, de gens qui meurent de la grippe, ce sont les gens les plus fragiles. Est-ce que c'est ça notre échelle, au fond ? On se dit, lorsqu'on arrivera à un chiffre à peu près équivalent, on considérera qu'on est rentré dans une sorte de routine, hélas, mais routine, Benjamin Davido.
En tout cas, je pense que c'est une question qu'il faut se poser, c'est combien de morts on est capable d'accepter, parce que sans dire que c'est
exactement
autant
ça,
ou pas, c'est...
Quel est le nombre de morts acceptables ?
C'est l'un va s'ajouter à l'autre, j'ai envie de vous répondre. En moyenne, il y a à peu près plus de 10 000 morts par an de la grippe, c'est combien est-ce qu'on accepte avec une vaccination et avec une maladie qu'on contrôle ou pas. Pour l'instant, il est trop tôt d'abord pour dire que la maladie elle est contrôlée et qu'on sait ce qui va se passer en décembre 2022. Mais clairement, je pense que c'est une question qui se posera au bout du bout, comme on vit avec d'autres maladies, encore une fois.
Le vaccin spécial Omicron qui est en train de sortir là incessamment sous peu, est-ce que on se dit que oui, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle ? Est-ce que c'est trop tard puisqu'il y a déjà tant de gens qui sont de toute façon vaccinés avec un vaccin différent, ou trop tard même par rapport au comment il s'appelle, le BA.2 ou BA.3, ou est-ce qu'on se dit que non, c'est bien ça?
Je crois pas que ça soit trop tard, d'abord parce que comme on l'a expliqué, lorsque on a des vaccins qu'on doit faire de façon annuelle, eh bien on les met à jour, et que souvent il y a même des vaccins multivalents. Alors on parlait même de faire un vaccin comme Novavax, d'ailleurs l'américain travaille sur un vaccin combiné avec la grippe. Moderna nous annonce pas pour cette année mais pour 2023, et en réalité ces vaccins vont être mis à jour. Ensuite, est-ce que encore une fois, à l'automne, il y aura d'ici là un autre variant, je dis n'importe quoi, Oméga, ce que vous voulez, eh bien, ça va nous obliger à faire des mises à jour vaccinales, et la réalité, c'est que probablement que dans cette phase 2 dite endémique, on aura besoin chaque année de mises à jour de vaccins, comme on soigne pour d'autres maladies, et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Au même titre, tout à l'heure, on disait combien de contaminations, on va arrêter de se dire combien de fois on a eu cette maladie, comme combien de fois on a eu la grippe ou d'autres maladies respiratoires.
Et merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux, merci de vos très nombreuses questions.